La mille et une nuits, tome 9, chapitre 2. Histoire du prince Habib et de Dorat Al-Gouaz. La tribu des Binu Hilal avait pour chef l'émir Selama, qui passait pour le capitaine le plus vaillant et le plus expérimenté de son temps. Il commandait à 66 autres tribus moins considérables et entretenait toujours autour de sa personne 1000 cavaliers qui étaient l'élite de toute l'Arabie. Quoique l'émir Selama fût déjà avancé en âge, il n'avait pas encore d'enfant et désirait beaucoup d'en avoir. Une nuit qu'il dormait tranquillement, il crut entendre une voix qui lui disait « Approche-toi de ton épouse, elle concevra et te donnera un fils. » Selama obéit à la voix du ciel et son épouse, Kamar al-Ashraf, mit au monde au bout de 9 mois un fils aussi beau que la lune lorsqu'elle est dans son plein. L'émir, transporté de joie, prit l'enfant dans ses bras, le caressa et l'appela Habib ou le bien-aimé. Kamar al-Ashraf ne voulut point que son fils suçât un lait étranger. Elle le nourrit pendant 2 ans et prit le plus grand soin de son enfance. Son père s'occupa ensuite de son éducation. Il fit venir plusieurs maîtres, choisit dans le nombre de ceux qui se présentèrent celui qui avait le plus de talent, et le chargea de former le cœur et l'esprit du jeune prince. Ce maître habile sut profiter des heureuses dispositions de son élève. Le prince apprit bientôt à lire et à tracer les 7 sortes d'écriture les plus usitées. À l'âge de 7 ans, il possédait parfaitement la grammaire, la logique et toutes les autres sciences. Il avait lu les anciennes histoires et connaissait les généalogies des principales tribus arabes. Il savait par cœur les vers de tous les anciens poètes et en faisait lui-même avec la plus grande facilité. Son père fit alors assembler les cheikhs de plusieurs tribus, leur donna un grand repas et leur distribua des présents magnifiques. Tout le monde fut étonné de l'esprit et des connaissances du jeune prince, et l'on augura qu'il serait un jour un homme extraordinaire. Selama voulut éprouver devant l'assemblée le talent de son fils pour les vers et lui en demanda quelques-uns. Le jeune prince répondit aussitôt au défi par 2 vers qui contenait l'éloge de son père et du maître qui avait présidé à son éducation. Toute l'assemblée fut étonnée de la beauté et de la finesse des expressions et convint que le prince avait autant de talent pour la poésie que pour la prose. L'émir, transporté de joie, embrassa son fils, le serra tendrement dans ses bras et donna ordre de faire venir son maître. Il se leva pour le recevoir, le prit par la main, le fit avancer au milieu de l'assemblée et lui dit « Docte et sage Abdallah, je sens tout le prix du service que tu m'as rendu, et je m'empresse de le reconnaître. Je te fais présent de 4 chameaux chargés d'or, d'argent et de choses précieuses, et je te donne le commandement d'une tribu. Tu connais les principes de la justice, et tu feras le bonheur de ceux qui seront soumis à tes lois. » Prince, répondit Abdallah, je n'ai pas besoin des honneurs et des richesses de ce monde terrestre. Il est temps de me faire connaître. Je ne suis pas un homme, mais un génie. Je tenais un rang distingué et rendais la justice parmi les génies de mon espèce lorsque une voix céleste se fit entendre à moi et me dit « Va trouver l'émir Selama, qui commande aux tribus des Arabes de la race des Benou Hilal. Prends soin de l'éducation de son fils et enseigne-lui toutes les sciences. » J'ai obéi à cet ordre, je me suis présenté devant vous, j'ai brigué l'honneur de servir de maître à votre fils et je l'ai obtenu. Lorsque Selama eut entendu ce discours, il se prosterna au pied du génie et lui dit « Puissant génie, je rends grâce à Dieu de la faveur signalée qu'il m'a faite en vous envoyant vers moi. » Le génie fit relever l'émir Selama, tourna ses regards vers le jeune Habib et dit en pleurant « Oh, si vous saviez ce qui doit arriver à ce jeune prince lorsque je ne serai plus auprès de lui. » « Que doit-il lui arriver ? » dit Selama avec inquiétude. « Je ne puis vous le révéler, » répondit le génie. En disant ces mots, il serra le jeune prince contre son sein, poussa un grand cri et disparut. Habib, se voyant privé d'un maître qu'il aimait tendrement, fit éclater ses regrets dans les termes les plus touchants. « Où est-il, s'écriait-il, celui à qui je dois tout ce que je sais ? Sa perte est pour moi le plus grand des maux, et je n'en puis désormais craindre d'autres. Comment pourrais-je vivre sans lui ? Nuit et jour, son image sera présente à mes esprits. Mes yeux ne pourront goûter les douceurs du sommeil. Mon cœur sera consumé de regrets. et mon corps desséché par le chagrin. » L'émir Selama et toute l'assemblée fondaient en larmes. Tout à coup, on entendit une voix qui prononça ces paroles. « Que le prince Habib ne se laisse pas abattre par la douleur, mais qu'il songe à remplir ses hautes destinées. Il aura des combats à soutenir, des revers à essuyer. Il est temps, après avoir cultivé son esprit, qu'il apprenne à endurcir son corps à la fatigue, à manier les armes et qu'il se forme au métier de la guerre. » Ces paroles relevèrent le courage du jeune Habib. Il essuya ses larmes et dit à son père : « Le génie qui m'a ouvert la carrière des sciences m'avertit, en me quittant, de m'élancer dans celle des armes. Déjà, je brûle de m'y signaler. Qu'il est beau de bien manier un cheval, de se servir adroitement de la lance et de l'épée, de sortir victorieux d'un combat et de remplir le monde du bruit de ses exploits. Mon cher Habib, dit Selama en embrassant son fils, que j'aime avoir éclater en toi cette ardeur pour la gloire. Tu dois commander un jour aux plus vaillantes tribus de l'Arabie. Tu seras digne de marcher à leur tête. Mais le métier des armes demande un long et dur apprentissage. Il faut te préparer au combat par tous les exercices qui forment ta vaillant chevalier. Pour cela, tu as besoin d'un maître qui t'instruise par son exemple autant que par ses préceptes. Peut-être le ciel, qui a jusqu'ici pris soin de ton éducation, achèvera-t-il lui-même son ouvrage. » Tous les cheikhs qui étaient présents désiraient servir de maître au jeune Habib. Chacun d'eux tâchait, par ses discours, d'attirer l'attention de l'émir et de fixer son choix. Sur ces entrefaites, on vint annoncer à l'émir qu'un étranger demandait à être introduit. L'émir ayant ordonné qu'on le laissât approcher, l'étranger se présente à l'entrée de la tente. Il était monté sur un coursier vigoureux, d'une beauté si parfaite qu'il semblait surpasser les plus beaux chevaux de l'Arabie. Sa cotte de maille, d'un tissu étroit et serré, ressemblait à celle que fabriquait le prophète David. Il tenait à la main une massue de la pierre la plus dure que 40 des plus fameux guerriers n'auraient pu porter. Son large cimetière était l'ouvrage d'un artiste indien, et sa lance était faite de la main du fameux Semher. Il salua gracieusement l'émir et tous ceux qui l'entouraient, descendit légèrement de cheval, prit place dans l'assemblée et adressa ainsi la parole à l'émir. « La profession des armes eut toujours des attraits pour moi. J'ai acquis quelque expérience dans les combats. Je viens vous en faire hommage et offrir mes leçons au prince Habib. Je sens que je puis paraître téméraire en sollicitant l'honneur de servir de maître à votre fils. Mais si vous voulez me permettre de me mesurer avec vous, peut-être vous trouverez que je ne suis pas tout à fait indigne de ce glorieux emploi. » Les cheikhs, qui étaient auprès de l'émir Selama, voulurent l'empêcher d'accepter le combat que lui proposait l'étranger et lui représentaient que peut-être c'était un chevalier méchant et discourtois, ou même quelque génie jaloux de sa réputation, qui espérait le vaincre en employant la ruse et la perfidie. L'émir, méprisant la crainte qu'on voulait lui donner, répondit en ces termes : brave chevalier, la noblesse de votre maintien, la franchise et la loyauté de vos discours m'annoncent que je puis, sans déshonneur, accepter le défi que vous me proposez. » L'émir ordonna aussitôt qu'on lui apportât ses armes. Il se revêtit d'une cotte de maille aussi serrée et aussi à l'épreuve que celle de l'inconnu, prit un cimetière capable pour fendre un rocher et une lance longue de 30 coudées qui pouvait renverser une montagne. Et il se fit ensuite amener le meilleur de ses chevaux. Toute la tribu sortit de ses tentes pour être témoin du combat. Les deux guerriers descendent dans l'arène comme deux lions furieux, s'éloignent d'abord et fondent ensuite l'un sur l'autre avec la rapidité de l'éclair. Leurs lances ne peuvent résister à la violence du choc et volent en éclats. Les deux guerriers n'ont point été ébranlés d'une atteinte aussi terrible et mettent aussitôt l'épée à la main. Les coups sont portés et parés de part et d'autre avec une rapidité que l'œil a peine à suivre. On s'attaque, on se presse, on s'évite, on se fuit tour à tour. L'air retentit du cliquetis des armes. Un nuage de poussière couvre les combattants. L'émir ne tarda pas à s'apercevoir qu'il avait affaire à un adversaire qui ne lui était point inférieur. Il ne jugea pas à propos de pousser plus loin l'épreuve et fit signe à l'inconnu de cesser leur combat. Celui-ci, sautant en bas de son cheval, se jeta aux pieds de l'émir et lui dit : « Si j'ai proposé un combat à l'émir Selama, ce n'était point dans l'espoir de le vaincre. Je désirais seulement de ne pas lui paraître indigne de l'emploi que je sollicite auprès de son fils. « Brave chevalier, lui répondit l'émir, jamais je n'ai rencontré un rival aussi redoutable que vous. Je voulais seulement moi-même éprouver la valeur de celui que je donnerais pour maître à mon fils, et je me félicite de pouvoir le confier à des mains telles que les vôtres. » En disant ces mots, l'émir fit signe à son fils d'embrasser le chevalier inconnu. Le jeune prince, rempli d'admiration pour l'adresse et la valeur qu'il venait de montrer, vola dans ses bras et lui demanda son nom. « Je m'appelle Alabous, répondit le chevalier. Ce nom, repartit aussitôt le jeune prince avec vivacité, ne saurait être une contre-vérité, car loin de paraître austère et de mauvaise humeur, comme votre nom semblerait l'indiquer, vous réunissez tout ce qui peut charmer davantage. Je sens que j'ai déjà beaucoup d'attachement pour vous. » Alabous sourit et serra dans ses bras le jeune prince, qui le prit par la main et ne le quitta plus. « Chevalier, dit l'émir, mon fils va trouver en vous un autre moi-même. J'espère qu'il profitera de vos leçons et qu'il deviendra le plus vaillant de nos chevaliers. » « J'y ferai mes efforts, répondit Alabous, et je suis d'avance assuré du succès. » Le jeune Habib s'appliqua dès lors avec ardeur à tous les exercices du corps. Son maître l'endurcissait par degrés à la fatigue. Son courage et son adresse croissaient avec ses forces. Chaque jour, il faisait de nouveaux progrès, et bientôt il donna des preuves éclatantes de sa valeur dans les guerres que son père avait à soutenir contre les tribus voisines. Il traversait la nuit les déserts et fondait à l'improviste sur les ennemis. Il défiait quelquefois les plus braves et sortait toujours victorieux de ses combats singuliers. Sa réputation s'était déjà répandue au loin et il passait pour le plus vaillant chevalier qu'il y eût au monde. Le chevalier, ou plutôt le génie, chargé d'apprendre au prince le métier des armes, devait le quitter aussitôt que sa mission serait remplie. Alabous, voyant que le prince n'avait plus besoin de ses leçons, lui dit un jour, en se promenant à cheval avec lui dans la campagne, « Mon fils, vous savez que vous devez endurer bien des fatigues, courir bien des dangers, mais vous ignorez quel doit être le prix de tant de travaux. Ce prix, c'est la belle Dorat al-Goaz, qui règne sur des milliers d'îles situées aux extrémités de l'océan et habitées tout à la fois par des génies et par des hommes. Ces deux espèces vivent ensemble sous ses lois dans la meilleure intelligence et chérissent également leur règne. Elle a deux vizirs, l'un de la race des génies, l'autre de celle des hommes, qui rendent chacun la justice à leur semblable. Plusieurs génies recherchent ardemment la main de la reine, mais votre réputation et vos exploits lui ont inspiré pour vous l'amour le plus vif. Elle sait que bien des obstacles s'opposent à cette union, mais elle espère que vous en triompherez par votre courage et que vous ne balancerez pas à abandonner votre famille et votre patrie pour chercher les lieux où elle fait sa résidence. » Ce discours attendrit le cœur du jeune prince et enflamma son courage. Il pria son maître de lui faire mieux connaître celle qui, seule, pouvait faire désormais son bonheur. Alabous y consentit et lui raconta ainsi l'histoire de Dorat al-Goaz.